VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par le Gabon. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat à l'élection présidentielle gabonaise de 2016, Jean Ping, a refusé de se présenter hier à une convocation de la police judiciaire à Libreville. Je suis convoqué sans motif. On me dit de me présenter à la police judiciaire. La PJ est barricadée. Personne ne peut entrer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, a déclaré l'opposant qui est resté à son domicile toute la matinée malgré sa convocation à 10h heure locale aux affaires criminelles de la police judiciaire. Un important dispositif policier avait été mis en place devant les locaux de la police où quelques dizaines de sympathisants s'étaient rendus pour manifester leur soutien à Jean Ping. Interrogé par l'AFP, le ministre gabonais de la communication et porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billy Binenze, a déclaré pour sa part ne pas connaître l'objet de la convocation. Le ministre a par ailleurs confirmé que l'État allait porter plainte contre Jean Ping suite notamment à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où il disait vouloir se débarrasser des cafards dans la perspective de l'élection présidentielle. Jeudi, la Fondation pour la démocratie et la gouvernance, ONG basée à Bruxelles, a également dit avoir porté plainte à Paris pour incitation à la haine contre le candidat à la présidence Jean Ping. Monsieur Ping, lui, a dénoncé un grossier montage. Le chef historique du mouvement indépendantiste de l'enclave angolaise de Cabinda, Henrique Thiago Nzita, 88 ans, est décédé à Paris où il vivait en exil. L'enclave de Cabinda, coincée entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, produit 60% du pétrole de l'Angola, mais la majorité de ses 400 000 habitants vit dans l'extrême pauvreté. La réaction de Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, principal parti d'opposition en Angola, au micro d'Idriss Fall.
Le Cabinda vient de perdre une des plus importantes personnalités du territoire cabindé. Il a été un icône de la lutte, un symbole de la lutte contre le colonialisme qu'il a combattu contre la présence coloniale portugaise dans le territoire angolais comme tel. Il s'est battu contre ce qui était la présence militaire du MPLA au Cabinda. Il s'est battu pour une solution qui puisse unifier le Cabinda. Toute sa vie, il a résisté à la corruption, il a résisté pour la cause qu'il défendait. C'était quelqu'un de très important que le Cabinda vient de perdre.
Raoul Danda, vice-président de l'UNITA à Luanda, en Angola. Angola toujours, le président José Eduardo dos Santos a nommé sa fille Isabelle à la tête de la compagnie pétrolière publique Sonangol. À 43 ans, cette mère de trois enfants est la femme la plus riche d'Afrique. Son patrimoine est estimé à 3 milliards 300 millions de dollars. En RDC, le M23 dément toute démarche visant à se transformer en parti politique. Le mouvement rebelle a fait une mise au point à ce sujet après une réunion fin mai à Kinshasa avec le gouvernement sous les auspices de la communauté internationale. Les précisions du porte-parole du M23, Elia Montella, au micro d'Eddie Isango.
Il y a certains ex-membres de l'organisation qui ont quitté l'organisation, qui ont décidé de créer un parti politique. Ils veulent entretenir une confusion en faisant penser que c'est le M23 qui s'est transformé en parti politique. L'ex-camarade Chokwe et d'autres personnes qui ont introduit une demande d'agrément d'un parti politique, le M23 n'est pas encore à ce stade. Nous avons plusieurs points contenus dans la déclaration de Nairobi qui doivent précéder la demande de la transformation de l'Union contre parti politique. Je vais vous donner la raison. C'est que nous sommes dans le pays étranger en Ouganda et au Rwanda et qu'à ce jour, on ne voit pas à mesure d'organiser le préalable face à ce qui se transforme en parti politique, entre autres la tenue d'un congrès.
Elia Moutella, porte-parole du M23 juin à Kampala, en Ouganda.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Sommet de la CEDEAO aujourd'hui à Dakar, les opposants gambiens exhortent les pays de l'organisation à prendre des sanctions contre la Gambie face à la répression qui s'y est aggravée, selon un rapport publié par Amnesty International. Maëlys Segel.
Ce rapport a été rendu public hier lors d'une conférence de presse avec les opposants gambiens à Dakar. Amnesty dépeint un tableau sombre du pays de Yahya Jammeh. 51 personnes sont en cours de jugement. Au moins 36 personnes ont été arrêtées sans inculpation depuis une manifestation pacifique le 9 mai 2016. Et enfin, le syndicaliste Solo Sandingue est mort en détention. L'ancien ministre et opposant Amadou Jané a qualifié la situation de tragique. Lorsque la case de votre voisin brûle, si vous avez de l'eau, allez éteindre le feu, a renchéri l'activiste gambienne Fatoumata Tambanyang. Elle a appelé à des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs de Jamé et de ses proches, ou les empêcher de voyager. Amnesty International, pour sa part, appelle la CEDEAO à accroître la pression sur Banjul et suggère la possibilité de suspendre la Gambie si aucune avancée n'est réalisée sur le terrain des droits de l'homme.
Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger, NDA. Et le président Muhammadu Buhari a finalement annulé sa première visite dans la région prévue hier. Qui sont ces nouveaux rebelles sudistes dans le pays? Élément de réponse avec le professeur Acho Akakuru de l'Université de Port-Harcourt, au micro de Tatiana Mosso.
On croit qu'il s'agit de ces groupes sous qui ont existé depuis fort longtemps dans le delta du Nigeria, qui revendiquent, je ne sais pas, parfois un état haut, parfois plus bas de pétrole, etc., et qui veulent le contrôle de leurs ressources. Donc c'est un peu confus puisqu'il y a quand même des tendances un peu différentes.
Vu de l'extérieur, on a l'impression, ils rappellent en tout cas les rebelles du Mend. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces groupes-là?
Selon ce que l'on dit, on ne sait pas au juste, il est fort possible qu'il y ait de liens entre ce groupe. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème fondamental, c'est la structure du pays. Que certains gens se sentent déniés de ressources de leur région. Ils sont sous-développés, même si parfois ce sous-développement peut bien venir de certains gens de la région qui sont au pouvoir. Mais le fait reste pour la majorité des gens qui pensent qu'il y a quand même une nécessité urgente de restructurer le Nigeria. Le système actuel le favorise des gens qui ne produisent pas tellement les ressources du pays.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les revendications des indépendantistes, des séparatistes qui veulent recréer un état du Biafra?
Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu simpliste de penser qu'il y a un lien viscéral entre les deux mouvements qui peuvent à un certain moment se rejoindre. Mais le fait reste que c'est le même problème de structure du Nigeria que par exemple du côté de Biafra, les Igbo, ce sont hors de géopolitique nigérien alors que c'est un groupe ethnique qui est important. Il semble que dans la répartition des biens du pays, ils sont délaissés pour compte. Ils ne sont pas préparés à accepter.
Qu'est-ce qui alimente ces rébellions à répétition dans cette zone du pays? Qu'est-ce qui fait que les causes semblent aussi profondes?
Tout le monde sait qu'il y a quand même un déséquilibre dans notre pays. La réalité réside, malgré ce que l'on dit, il faut revoir cette structure. Selon ce que je lis dans les journaux aujourd'hui, les gens trouvaient de côté de Biafra, etc., les discours présidentiels, etc., qu'il y a une approche trop simpliste et militariste. Je ne crois pas que le gouvernement fédéral puisse mener une guerre contre tous ces gens. Ça sera catastrophique. Ça va détruire notre pays et créer des problèmes sous-régionaux pour le Nigeria.
Le professeur Acho Akakuru de l'Université de Port-Harcourt au Nigeria y répondait aux questions de Tatiana Mosso. Le département d'État américain estime que la menace du terrorisme international devient de plus en plus décentralisée avec des groupes comme l'État islamique qui étendent leurs tentacules au-delà du Moyen-Orient, y compris en Afrique et en Asie du Sud-Est. Jean-Roger Bion.
Ces conclusions sont contenues dans le rapport annuel du département d'État américain. Al-Qaïda, Boko Haram et Al-Shabaab continuent de lancer des attaques meurtrières, mais le groupe État islamique, ajoute-t-il, est resté la plus grande menace internationale en 2015, avec une force formidable en Syrie et en Irak. Bien qu'il y ait eu érosion dans certaines forces des djihadistes dans la seconde moitié de cette année, les extrémistes ont réussi à lancer une série d'attaques ailleurs, dans des pays comme la France et la Turquie. Le groupe État islamique a enregistré des gains en Libye et établi des organisations affiliées dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Boko Haram, lit-on dans le rapport, a tué des milliers de personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres dans la région du bassin du lac Tchad. Et Al-Shabaab a lancé des attaques meurtrières en Somalie pour éradiquer les progrès faits par le gouvernement.
Et vous terminez la course à la Maison Blanche ici aux États-Unis. Nouvelle bagarre entre pro et anti-Trump en Californie, alors que le futur candidat républicain tenait un meeting à San José. Des bagarres devenues récurrentes dans la campagne du milliardaire Donald Trump. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.